Non, non, ça. On était couffé dans le dans l'édition Hartmann, on est couffé. D'accord. J'envoie un message unique, comme ça s'il a encore des forces de venir. Une seconde encore. D'accord, alors on va y aller. On va y aller. Donc on va la semaine dernière, on avait parlé de Martha Bad Baitus. On avait parlé de Martha Bad Baitus qui avait eu tout un épisode où elle avait cherché à obtenir à manger, elle n'avait pas réussi, etc., etc. Ça, c'était le propos de la semaine dernière. Alors, le Maharal Kedar Kohi, il continue le Mahamar Chazal. Et c'est quoi le prochain épisode? C'est l'épisode de Abba Sikra. Donc, Abba Sikra, c'était le nom du chef des Birionei Yerushalayim, en français, on les appelle les zélotes, mais c'était surtout des gens violents, en fait. En français, voilà, on a gardé la nomenclature de Flavius, qui les appelait les zélotes. Mais c'était pas des zélotes, c'était des gens violents qui aimaient la guerre et la bataille. Et donc, cet homme-là, c'était le fils de la sœur de Rabbi Yochanan ben Zakkai. C'était le fils de la sœur de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et pourtant, c'était le chef des brigands. Stam, on peut faire la remarque, il y a quelque chose d'exceptionnel, puisque la Gemara, elle dit que quand on veut savoir est-ce qu'une jeune fille, c'est un bon chidouch ou pas, il faut regarder les frères de cette fille-là. Si les frères, ils sont bien, alors la fille aussi, elle est bien. Et si les frères, ils sont problématiques, alors c'est pas forcément un bon chidouch. Mais là, cette femme-là, c'était la sœur de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et malgré tout, l'enfant est sorti le chef des Birionei Yerushalayim. Alors, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a fait mander Abba Sikra. Il est venu discrètement chez lui. Il est venu, il lui a dit, mais jusqu'à quand vous allez faire ça et vous allez tuer tout le monde par la famine? Alors il a dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse si moi, le chef des brigands, je leur dis quoi que ce soit, ils me tueront. Ça, c'est un grand yessod aussi. C'est un grand yessod dans la vie que les chefs, souvent, ce n'est pas les chefs. Les chefs, ils sont autant menés. Il y a une dynamique de groupe. Il y a une dynamique de groupe. Et juste, il y a besoin qu'un quelqu'un à l'avant. Il y a un fameux roman qui s'appelle Guerre et paix de Tolstoï, et à la fin, il décrit sa théorie de l'histoire. Et lui, il dit qu'en fait, l'homme providentiel, le meneur, le chef, c'est comme l'écume qui est à l'avant du bateau. Le bateau, il est poussé par le vent, et quand il est poussé par le vent, ça fait de l'écume à l'avant. Ça veut dire qu'en fait, quand on regarde, on a l'impression que c'est l'écume qui tire le bateau, alors qu'en fait, pas du tout, c'est l'écume qui est poussée. C'est pas seulement l'écume, mais enfin les vagues, c'est-à-dire que c'est l'eau, en fait, elle est poussée par le bateau qui est lui-même poussé par le vent, et ce qu'on voit à l'avant, en fait, c'est que les turbulences. Et donc, dit-il, souvent, les grands hommes, en fait, c'est ça, c'est que les turbulences qui sont à l'avant du vrai déplacement. Ici aussi, on a un esprit, on a un groupe, on a un état d'esprit, et à l'avant, il y a quelqu'un qui se retrouve à l'avant. Mais en fait, c'est juste la personne qui est le plus poussée par ça. Mais il a aucun contrôle. Il a aucun contrôle. C'est souvent comme ça dans les effets de groupe que le meneur, en fait, il a aucun contrôle. S'il dit quoi que ce soit qui échappe à cette orthodoxie-là, alors il se fera jeter. C'est-à-dire que même la révolution, elle a ses orthodoxies. Et celui qui abandonne, ne serait-ce qu'un petit peu l'esprit de la révolution, alors il se fait tout de suite accuser de réactionnaire, etc. Et on lui coupera la tête. Donc ici, on a ce Abbasikra, il dit, je peux rien dire. Je peux rien dire. Si je leur dis d'abandonner, je me ferai tuer. Alors il dit, alors Rabbi Yochanan, il lui a dit, trouve-moi une solution que je puisse sortir, parce que peut-être que tout sauver, je pourrais pas. Mais, excuse-moi. Ouais, je vais essayer de. Voilà. Tout sauver, je pourrais pas, mais sauver quelque chose, peut-être je pourrais. Alors, il dit, fais savoir, comporte-toi comme un homme malade. Répands la rumeur que tu es malade et que tout le monde vienne te visiter comme on visite quelqu'un de mourant et amène aussi quelque chose qui sent pas bon. Et comme ça, les gens, ils vont dire, comme ça, ils vont dire que tu es décédé. Parce que comme on sait, on a parlé de ça la semaine dernière, on avait parlé, voilà, que la première marque que ça, c'est quelque chose, la mort, elle a une odeur. La mort, elle a une odeur. Donc, fais répandre autour de toi, fais tout ce qu'il faut pour convaincre les gens. Une seconde. On vint les gens que tu es décédé et que tes élèves y viennent et qu'ils laissent personne d'autre te porter. Pourquoi? Parce que la répartition du poids d'un mort, elle n'est pas la même que celle d'un vivant. Alors qu'un mort, il roule, il reste pas en place. Et donc, quand on le porte, les gens, c'est plus facile de porter un homme vivant que de porter un mort. Donc, ne laisse personne d'autre que tes élèves te porter. Ouais. Et ils ont fait comme ça. Et Rabbi Eliezer, il est allé d'un côté, Rabbi Shua de l'autre côté. Quand ils sont arrivés à la porte de Rushalayim, ils ont voulu le poignarder. Ils ont dit de deux choses une. Soit il est vivant, soit il est mort, mais il sortira pas vivant. Alors ils ont dit, mais alors les Romains, ils vont dire que c'est vous qui avez tué Rabbi Yochanan. Ouais. Vous faites ça pour vérifier qu'il est déjà mort. Mais en fait, les Romains, ils vont dire, ah oui, on voit des marques des traces de couteau. En fait, ils ont tué leur rab. Alors, ils ont voulu le secouer parce que si on le secoue, peut-être qu'il va hurler. Donc, ils ont voulu le secouer, mais vraiment fort. Ils ont dit, après, il y aura des traces. Ils vont dire, oui, ils l'ont frappé à mort. Donc, avec tous ces arguments-là, les Birionim, ils ont laissé Rabbi Yochanan sortir. Quand il est arrivé au camp romain, alors, quand il est arrivé au camp romain, il a dit au général, Shalma alaikh Malka, Shalma alaikh Malka, que la paix soit sur toi, ou Alecha, que la paix soit sur toi, le roi, que la paix soit sur toi, le roi. Alors, le général, il a dit, il y a deux, tu es passible de mort à double titre. La première, c'est que je ne suis pas un roi. Et tu m'as appelé un roi, donc en fait, c'est une trahison envers l'empereur à Rome. Et la deuxième chose, c'est que si je suis le roi, tu aurais dû venir me voir beaucoup plus tôt. Pourquoi tu as tellement traîné? Alors, il lui a dit, ce que tu as dit que tu n'es pas le roi, la vérité, c'est que tu es le roi. Pourquoi? Parce que si tu n'étais pas le roi, tu n'aurais pas vaincu Yerushalayim, parce qu'on sait que Yerushalayim, elle ne tombera que dans la main d'un roi. Comme il y a marqué dans Yeshaya, va Levanon, le Levanon, et on va voir que le Levanon, c'est le Beth Amikdash, c'est Yerushalayim, va Adir, il tombera dans la main avec le Adir, le puissant. Et c'est qui le Adir? C'est le roi, comme il ramène un passage de Yirmiya. Et Levanon, c'est le Beth Amikdash, c'est Nehemar, Ahar HaTov Hazeh, cette belle montagne, cette bonne montagne, va Levanon et le Levanon. Donc le Har, c'est Yerushalayim, et le Levanon, c'est le Beth Amikdash. Donc le Levanon, le Beth Amikdash, il tombera dans la main d'un roi. Donc, puisque toi, Spacianus, tu es sur le point de gagner, alors, c'est donc que tu es un roi. Alors, tu m'as demandé, si je suis le roi, pourquoi n'es-tu pas venu me visiter? C'est que les Birionim, ils m'ont pas laissé. Alors, il lui a répondu, le général romain, il a répondu comme ça. Il a dit, imaginons qu'il y ait un tonneau, ouais, une cruche, un tonneau. Quatre, c'est une cruche. Ravid, c'est plus un tonneau de miel. Et il y a un serpent, un dracon, qui est autour, qui s'est attaché, qui s'est enroulé autour du tonneau. Est-ce que vous n'aurez pas cassé la, est-ce que vous n'aurez pas cassé le tonneau pour éliminer le pour éliminer le dracon. Le dracon, c'est un animal dangereux. Vous devez vous en débarrasser. Il fallait être prêt même à perdre du miel. Et Rabbi Yochanan, il n'avait pas de réponse. C'est-à-dire qu'en fait, l'argument de Vespasien, c'était que c'est vrai qu'il y avait des Birionim, mais vous aurez dû. Il représente un tellement grand danger que vous aurez dû brûler les murailles pour vous en débarrasser. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai, il n'avait pas de réponse. Là-dessus, on dit au nom de Rabbi Yosef, il a appliqué sur Rabbi Yochanan un passouk. Il y en a qui disent que ça vient de Rabbi Akiva. Mais Shiv Chachamim Achor, il renvoie les Chachamim en arrière. Il y a une régression. Il fait régresser les Chachamim. Vedaatam Issakel, et leur esprit, il rend sot. Qu'est-ce qu'il aurait dû dire? C'est que nous, on pensait prendre une pince, enlever le dragon et le tuer et sauver le tonneau. Parce que si on brûle le, on a un espèce de serpent qui est enroulé autour de quelque chose et on veut le tuer. Et donc, tu dis soit tu fais brûler, tu détruis, tu attaques le tonneau à grands coups de hache. Et tu tues le dracon, mais tu casses le tonneau et tu perds le miel. Moi, j'avais une meilleure solution. Nous, on espérait s'en débarrasser en les enlevant du contrôle de la ville. Les Birionim, ils avaient pris le contrôle des portes, comme le serpent qui entoure le tonneau. Nous, on espérait l'enlever avec des pinces et s'en débarrasser sans brûler les murailles. Mais il n'a pas pensé à cette réponse. Il n'a pas pensé à cette réponse. Pourquoi? Il aurait pu répondre. Mais il n'y a pas pensé. Pourquoi? Parce qu'au moment où Hachem y veut, le Chacham y perd sa chorma. Alors qu'ils étaient en train de parler, il y a un émissaire qui est arrivé de Rome et qui lui a dit, lève-toi, car le César est mort et les notables de Rome, ils ont voté pour te placer à la tête du Sénat. Donc, effectivement, à ce moment-là, il est devenu empereur. Il a été nommé empereur, comme Rabbi Yochanan ben Zakkai l'avait prédit. Il avait déjà mis, donc Vespasien, il avait déjà mis une chaussure. Il a voulu mettre sa deuxième chaussure, il n'a pas réussi. Il a voulu enlever la première, il n'arrivait pas à l'enlever. Donc, il était coincé. Alors, il comprenait pas ce qui se passait. Rabbi Yochanan lui a dit, n'aie pas, ne crains pas, ne souffre pas, c'est que tu as reçu une bonne nouvelle. Et il a marqué qu'une bonne nouvelle, elle engraisse l'os. Ouais, Tedachen, c'est Milachon de l'engrais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Amène un homme que tu supportes pas et qui passe devant toi. Parce que la suite du, parce qu'il y a un passage qui dit, dans Michelet aussi, un souffle déprimant, il assèchera les os. Donc, ton pied, il a gonflé. Tu as les chevilles gonflées par la bonne nouvelle. Là, les mauvaises impressions que cet homme, ça va te faire, ça va ramener ta cheville à sa taille naturelle. Il a fait comme ça. Il a fait comme ça. Et ça a marché. Alors, Vespasien lui a dit, mais puisque tu es tellement sage, pourquoi est-ce que tu n'es pas venu jusqu'à maintenant? Alors, il a dit, mais je t'ai déjà dit que je ne pouvais pas sortir. Il lui a dit, mais moi aussi, je t'ai déjà dit. que tu aurais dû te débarrasser des béronymes qui t'a cassé. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, Vespasien est dit, mais il y a quelque chose qui va pas. Tu es tellement sage et pourtant, tu n'as pas eu l'intelligence de venir. Ça veut dire que Vespasien Cagnieri, il disait comme ça. Tant qu'il pensait qu'il avait de l'espoir, il avait l'espoir de survivre au siège, il n'est pas venu. Une fois qu'il s'est rendu compte qu'il avait aucun espoir de survivre au siège, c'est là qu'il est venu. Donc en fait, il négociait en position de faiblesse. Et moi, j'ai aucun intérêt. S'il était venu plus tôt, j'aurais pu dire, pourquoi est-ce qu'il est venu? Parce que la guerre, ça l'intéresse pas. Mais là, ça fait un moment, ça fait un long moment que le siège y dure. Et il n'est pas venu. Donc pourquoi est-ce qu'il vient maintenant? Parce qu'il n'y a plus d'espoir. Et donc c'est ce qui s'appelle négocier en position de faiblesse. Et celui qui négocie en position de faiblesse, il obtient très peu. Alors Vespasien, il a dit comme ça. Il a dit, maintenant moi je vais m'en aller à Rome. Et je vais envoyer un autre homme. C'est un autre homme qui sera là à ma place. Mais puisque je suis là, demande-moi une chose. Alors il lui a dit, je vais te demander trois choses. Ouais, Vespasien lui a dit, je te donne une chose, et Rabbi Rahim a dit, je vais te demander trois choses. Il lui a dit, donne-moi Yavne et ses Chachamim. Donne-moi la lignée de Rabban Gamliel. Bien que l'habitude, elle est que quand on veut détruire une société, on détruit ses nobles, accorde-moi la survie de la lignée de Rabban Gamliel et un médecin pour Rabbi Tzadok. Alors, Rabbi Yosef, il a dit encore une fois au nom de Rabbi Akiva, qu'encore une fois, c'était Meshiv Chachamim Achor, Vedaatam Rabbi Yochanan, il avait autre chose à demander. Qu'est-ce qu'il aurait dû demander? Il aurait dû demander que il abandonne le siège et qu'il accepte la reddition de Yerushalayim. Alors, en fait, la Gemara, elle dit non. Que Rabbi Yochanan Ben Zakkai, il pensait que c'est trop demandé et que quand on demande trop, on n'a rien. Donc, il préférait Hatzala Pourta, un petit sauvetage, mais garanti, plutôt que de tenter plutôt que de tenter quelque chose de grand et de se retrouver sans rien. D'accord. Donc ça, c'est le Mahamar Chazal. Et encore une fois, on garde le même principe que les Mahamaré Chazal, il n'y a rien de gratuit dedans. Et donc, on va analyser les détails. Donc, le point de départ de tout ça, pourquoi est-ce que c'est que Rabbi Yochanan, il va voir Vespasien et lui dit, va Levanon, bah, dire Paul. Le Lévanon, il tombera dans la main du puissant, c'est qui? C'est le roi. Donc, et on dit, c'est quoi le Lévanon? C'est le Beth Amikdash. Et Eret Israël et Yerushalayim, il s'appelle Har. Comme il y a marqué dans Devarim, Ahar Atov ve'Alvanon. La belle montagne, la bonne montagne, ça c'est Yerushalayim. Alvanon, c'est le Beth Amikdash. Pourquoi est-ce que Eret Israël, de manière générale, mais Yerushalayim en particulier, on l'appelle Lévanon? Ouais, parce que la montagne, elle est séparée de la terre, elle est élevée au-dessus de la terre, donc elle n'est pas assimilée à la terre, elle en est séparée. C'est ce que le Maharal, il appelle Mouvdal. Donc de la même manière que la montagne, elle est séparée du reste de la plaine de par son élévation, de la même manière, Eret Israël, elle est séparée de la reste de la terre par son élévation, non pas physique, non pas topographique, mais spirituelle. Mais ça reste que c'est pas complètement distinct. Pourquoi? Parce que la montagne, ouais, les cimes, elles sont très élevées, mais les bases des montagnes, elles rejoignent la terre. Les montagnes s'élèvent de la plaine. Donc il y a encore une connexion entre la terre et la montagne. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Eretz Israël, on l'appelle Eretz Israël. Il y a les autres terres et il y a Eretz Israël. Il y a Artsot Agoyim et Eret Israël. Donc la distinction, elle n'est pas absolue. Mais le Beth Amikdash, il s'appelle Lévanon, parce que Lévanon, c'est quoi? C'est quelque chose qui est complètement séparé de la terre. C'est l'arbre qui pousse sur la cime des montagnes. Et ça ne s'appelle pas de la terre. C'est quelque chose, c'est pas la terre. La montagne, c'est du sol qui est surélevé. Le Lévanon, c'est quelque chose qui n'est pas de la terre, mais il est rattaché à la terre. C'est-à-dire qu'il en est séparé, puisque on a les arbres qui poussent du sol. Leur point de départ, c'est le même que tout le monde. Là, on a la montagne qui est où les cimes sont élevées vis-à-vis de la plaine. Et par-dessus ça, tu as un arbre qui pousse. Donc l'arbre, il a une connexion avec la plaine qui est vraiment très ténue. Il a une toute petite connexion. Il pousse sur la cime de la montagne dont les bases sont en plaine. De la même manière, le Beth Amikdash, il est complètement séparé des autres parties de la terre par sa kdusha, et donc il est élevé al kol haaretz. Il est élevé au-dessus de toute la terre, et à tel point que ça s'appelle pas Eretz. C'est complètement autre chose. C'est complètement autre chose. C'est quoi l'idée? L'idée, elle est que c'est quoi cette histoire de Havdalah? C'est quoi cette histoire de Romemout? C'est quoi le sujet? En quoi c'est important? L'idée, elle est comme ça. C'est une idée que le Kouzri développe. Il dit que il y a des endroits qui ont des propriétés spéciales. Hachem, il a choisi, il n'a pas choisi Eretz Israël par hasard. Eretz Israël, c'est un lieu physique, mais c'est un lieu qui a des propriétés spirituelles. C'est-à-dire qu'en fait, quand on met les pieds en Eretz Israël, et quand, pas seulement quand on y va en touriste, mais quand on essaye d'être mitraber, quand on essaye de s'attacher à la terre, alors on n'est plus au même endroit. De la même manière que celui qui est en montagne, il est plus sur la plaine. Le climat est différent. C'est pas les mêmes choses qui poussent. On n'est pas dans le même état d'esprit. On n'est pas dans le même état d'esprit. On n'est pas dans le même endroit. L'air y est plus vif. Le climat y est différent. Et forcément, l'état d'esprit du montagnard, il n'est pas le même que les autres. Ouais. De la même manière, Eretz Israël, c'est un endroit à part. C'est un endroit à part. Mais on va dire qu'il n'y a pas une très grande distinction entre le montagnard et le paysan des plaines. Ils ont un peu des autres occupations. Ils ont la transhumance. Ils reposent plus sur le fromage que sur l'agriculture. Mais donc, ça reste, il y a des différences. Ouais. Le paysan, lui, c'est l'agriculture. Alors que le montagnard, c'est surtout l'élevage. C'est surtout l'élevage. Mais fondamentalement, sans vous, ouais, voilà, c'est tous les deux, ils sont tous les deux, c'est des villageois, c'est des provinciaux, c'est pas des gens des villes, etc., etc. Il y a une différence, mais elle n'est pas absolue. Par contre, on a la cime elle-même. Imaginons qu'on ait quelqu'un qui vive sur la cime. On a un ermite, quelqu'un ou un qui vive tout son temps sur la cime. Lui, il habite sur les cimes et il construit par-dessus. Il construit sa maison sur les cimes. Lui, il est complètement séparé du monde. C'est pas juste un montagnard. C'est complète. C'est un autre mode de vie. C'est un mode de vie où en fait, oui, il a encore un moyen de redescendre. Ouais. Il sort de son arbre, il descend de son arbre, il descend de la montagne, il rejoint le plancher des vaches. Mais sa vie, elle est complètement différente. Il est complètement coupé du reste du monde. Eretz Israël et Yerushalayim, c'est comme la montagne. C'est un endroit où la vie est différente. Ouais. On a dit la montagne, la vie de la montagne, c'est une vie de paysan, mais c'est une vie de paysan montagnard. C'est pas une vie d'agriculteur, c'est une vie d'éleveur. Alors, la vie d'Eretz Israël, ce n'est pas une vie gashmite, mais c'est une vie où il y a de la rochniout. Il n'y a pas une grande différence. Mais il y a le sommet, il y a la cime, et il y a l'ermite qui vit une vie complètement différente. Ça, c'est le Beth Amikdash, c'est le Lévanon qui est complètement séparé du monde. Et il dit, à part ça, j'ai parlé par ailleurs dans le Gvorot Hashem, que le Beth Amikdash s'appelle Lévanon parce que c'est un endroit qui blanchit. Il a chaîne Lavan, c'est un endroit qui blanchit. Donc le Beth Amikdash, il est Lévanon parce qu'il est comme ces arbres, il est comme les arbres qui poussent sur les cimes des montagnes, mais il s'appelle Lévanon aussi parce qu'il blanchit. Et celui qui il blanchit quoi? Les avonot, les fautes du peuple juif. Et celui qui cherche, celui qui analyse, il comprendra que les deux choses, c'est la même chose. Parce que puisque le Beth Amikdash, c'est un endroit extrêmement élevé, alors il purifie les fautes du peuple juif. Il purifie les fautes du peuple juif. Comme il y a marqué dans Yoma, Lama nikra bet amikdash Levanon, chez Malbin avonotehem chez Israël. Pourquoi est-ce qu'on appelle le bet amikdash Levanon? Parce qu'il blanchit les fautes du peuple juif. C'est quoi le malach? Levanon, c'est, comme on a dit, c'est ces endroits au sommet des montagnes où poussent les arbres. Mais le bet amikdash, on l'appelle Levanon. Pourquoi? Parce que Lebanon, on entend blanchir. Donc, on fait une analogie. Lebanon, l'avanne, ça blanchit. Le Beth Amigdash, on l'appelle Lebanon. D'accord, mais c'est plus qu'un jeu de mots. Ça veut dire que ce qui blanchit, c'est quelque chose d'élevé. Parce que, en fait, le Beth Amigdash, c'est quoi sa main là? C'est qu'il est séparé de la Gashmiout. Il est au-dessus de la terre. Il est au-dessus de la terre. Comme le Levanon qui est au-dessus de la terre. Et donc, il est méchaper les fautes. C'est quoi l'idée? L'idée, elle est que l'homme, il a deux parties. Il a une partie, Afar Mina Adama. Et il a une partie en lui qui est Ruach Haïm. Et le problème de celui qui faute, c'est comme on a parlé la semaine dernière, il laisse le roi, le Afar Mina Adama dominer, qui le tire vers le bas. Il laisse ça dominer. Mais quand il va au Beth Amikdash, le Beth Amikdash, c'est un endroit où on échappe à la pesanteur. Et donc, c'est un endroit où la Neshama, elle reprend le dessus sur le corps, elle fait tshuva, et forcément, la tshuva, elle répare la faute, elle purifie la faute, l'homme de la faute, mais c'est pas ça le sujet. Donc, en tout cas, ce qu'on retient, c'est que le Levana, le Beth Amikdash, c'est un endroit qui est très haut. C'est un endroit qui est connecté à la terre, mais c'est pas un endroit terrestre. C'est-à-dire que celui qui rentre au Beth Amikdash, c'est comme celui qui va, on demande à un alpiniste. Mais c'est pas aujourd'hui c'est trop commercial. Mais il y a plusieurs fois j'ai lu ces choses-là où en fait les alpinistes ils décrivent un espèce de sentiment mystique quand ils arrivent au sommet ou quand vont vers le sommet. Pourquoi? Parce que justement ils essayent d'échapper à la terre des hommes. Ils essayent d'échapper, c'est un moyen d'échapper à la vie, c'est un moyen d'échapper à la routine, c'est un moyen d'échapper à la trivialité de l'existence. Voilà, j'ai entendu une formule qui disait. Donc, j'ai entendu. Alors, une seconde. Voilà. Voilà, non, donc en fait, le Beth Amikdash, c'est comme le sommet d'une montagne. L'air y est rare. On est au-dessus de tout. On est au-dessus de tout. On est coupé de tout. On est coupé de tout. Et voilà, comme je disais, il y a beaucoup d'alpinistes qui décrivent quelque chose d'absolument mystique quand on arrive au sommet d'une montagne. Le Beth Amikdash, mais quoi, c'est qu'en fait, au sommet des montagnes, on a un peu quelque part. Ouais, à condition qu'on n'y soit pas allé en téléphérique. Si on y va en téléphérique, ça marche pas. Mais quelqu'un qui a gravi une montagne et qui est arrivé au sommet et qui est au-dessus de tout, il éprouve quelque part, peut-être que si on voudrait, on voulait éprouver, se ressentir, on voudrait ressentir c'est quoi le Beth Amikdash, peut-être qu'au sommet d'une montagne qui serait difficile à gravir, on y arrive, on est coupé de tout et on est au-dessus du vide. Peut-être que là-bas, on aurait ce sentiment. Donc, c'est pour ça que le Beth Amikdash s'appelle Lebanon. Et donc, puisque le Lebanon, ce n'est pas un endroit terrestre, le Beth Amikdash n'est fondamentalement pas un endroit terrestre, alors, c'est normal que pour le détruire, il faut quelqu'un dont c'est le terrain de jeu. Quelqu'un qui vit sur le plancher des vaches, il ne sait pas comment s'attaquer au Beth Amikdash. Un homme normal, il rentre dans le Beth Amikdash et il est dépassé. Il est incapable de le détruire. Il est incapable de le détruire. Il est dépassé, il est débordé. C'est trop. C'est trop. Il est submergé. Submergé d'émotions, submergé d'images. Et donc, il ne peut pas détruire le Beth Amikdash. Quelqu'un qui détruit le Beth Amikdash, c'est quelqu'un pour qui c'est un endroit, quelque part, un endroit naturel. Il s'y sent à l'aise. Donc, il a du recul. Il peut dire, mais je connais cet endroit. Ouais. Par exemple, un roi, lui, il sait c'est quoi les faiblesses d'un palais. Parce qu'il vit dedans, parce que c'est son endroit, c'est son terrain de jeu. Donc, la seule personne qui pouvait rentrer dans le Beth Amikdash et le détruire, c'était quelqu'un qui était au-dessus de tout. Quelqu'un qui connaît ce sentiment d'isolement, de séparation. Un homme normal, il rentre dans le Beth Amikdash. Il est quasiment dans un état il ne sait plus comment il sait plus comment il s'appelle en fait, parce que son âme elle a aspiré vers le haut, il perd toute attache avec la réalité, Il a une expérience mystique. Un goy qui rentre au Beth Amikdash avait une expérience mystique. Pourquoi? Parce qu'il rentre dans quelque chose qui est au-dessus de lui. Mais le roi, un roi, ça c'est une expérience constante. Pourquoi? Parce que le roi, il est isolé. Le roi, il est au-dessus de tout. Le roi, il est séparé. Le roi, il est seul. Ouais. Il y a une idée que on dit le nazir, qui nézer eloka balrocho. Le nazir, donc, c'est celui qui est devenu nazir, qui a accepté pendant au moins 30 jours de ne pas boire de vin et de se laisser pousser les cheveux. Alors, on dit qui nézer eloka balrocho, la couronne du roi, elle est sur lui. C'est quoi nézer? C'est Milachon, je pense, c'est Milachon ni hasard. Il est devenu étranger. Le roi, il a une couronne et la couronne, elle le rend étranger. Il est étranger pourquoi? Parce qu'il est au-dessus, il surplombe. Donc en fait, le roi, il vit dans cet environnement-là, séparé du monde. De quoi il va dans le Beth Amikdash, qui est un endroit hors le monde, il n'a pas de choc. Il n'a pas de choc. Donc, il a assez de lucidité pour savoir ce qu'il veut faire. Et dans ce cas-là, s'il veut le détruire, alors il est capable de le détruire parce qu'il a cette lucidité-là. Il n'a pas d'extase. Il y a marqué, il y a une idée que les seules personnes, alors c'est qui pouvaient s'asseoir dans le Beth Amikdash, c'est Malchey Beth David. Ça veut dire que quelque part, celui qui est debout, c'est quelqu'un qui n'est pas à sa place. Celui qui est debout, c'est quelqu'un qui n'est pas à sa place. Celui qui est assis, c'est quelqu'un qui se trouve à sa place. N'importe qui d'autre, même le Kohen Gadol, il est debout. Même le Kohen Gadol dans le Beth Amikdash, il est debout. Un Kohen qui fait la Avoda assis, sa Avoda, elle est pas bonne. Ouais. Mais le roi, lui, il s'assoit. Pourquoi? Parce que le roi, le Beth Amikdash, c'est sa place. De toute façon, il vit toute l'année dans les cimes. C'est l'ermite des cimes dont on a parlé. Le roi, il s'y reconnaît. Pourquoi? Parce qu'il est isolé. Il vit toujours au-dessus du monde. Il doit toujours calculer comme s'il faisait pas partie. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui fait partie du monde, il n'a pas moyen de prendre des bonnes décisions. Parce qu'il a ce qu'on appelle des angles morts. Le seul moyen d'avoir une bonne approche, c'est de se sortir, d'avoir une bonne analyse, c'est de se sortir de l'équation. C'est de voir les choses de manière dépassionnée. Donc le roi, il vit déjà comme ça. Et c'est pour ça que le roi, c'est lui qui peut détruire le Beth Amikdash. D'ailleurs, l'un des signes que le roi, il est saint, il est au-dessus de tout, c'est que il était oint, le roi des Juifs était oint Beshemen Amishra. C'est quoi le Shemen Amishra? C'est de l'huile qui est kadosh. Toute personne qui met de l'huile d'onction, à part le Kohen et le roi, il est Chayav Mita. Parce que c'est kadosh. Mais le roi, il est kadosh. Ça dit quoi qu'il est kadosh? C'est qu'il est séparé du monde, il est distant du monde. Et donc, il n'y a que lui qui est capable de détruire le Beth Amikdash. D'accord. Donc, c'est pour ça que forcément, si Aspasianus était à même de détruire le Beth Amikdash, c'est donc qu'il était à ce niveau-là, il vivait à ce niveau-là. D'accord. Donc, on raconte, le Mahamar Chazal, il raconte qu'il avait jamais une de ses chaussures et qu'il n'arrivait plus à mettre la deuxième. Mais qu'il n'arrivait pas non plus à enlever la première. Alors, il y en a qui sont surpris que les os, ils ont grossi, etc. C'est quoi cette histoire qu'on a les os qui grossissent? C'est très étrange. C'est très étrange. Ouais. Avoir les chevilles qui gonflent, c'est métaphorique, mais ça vient d'ici. Ça vient d'ici. C'est d'ici que ça vient. Shmua Tova Tedashen Etzem, c'est d'ici que vient l'expression avoir les chevilles qui gonflent. Mais physiquement, qu'est-ce que ça veut dire? D'un coup, il y a un apport de calcium. Enfin bon, c'est étrange de quoi on parle. Alors il dit, sache, quand on dit qu'il n'arrivait plus à mettre ses chaussures, c'est pas que son pied il a grossi. C'est pas que son pied il a grossi. C'est pas de ça qu'on parle. Ouais. Et le lachon du Maharal, il est suivant. Rak yashmua tova sheba pitomit la Adam. Mais Dachen, Etsem à Adam. Parce que Etsem, c'est un double jeu, c'est un double sens. Etsem, c'est l'os. Mais Etsem, c'est aussi le lui-même, le soi-même. Ouais. Birvodo Beatzmo. Ouais, comme on dit dans la Haggadah, en lui-même, en chair et en os, on va dire, en français, en parlant de Dieu, mais c'est le Etzem, c'est le soi-même, le lui-même de l'homme. Donc quand on dit que Shmua Tova, une bonne nouvelle, elle engraisse le Etzem de l'homme, c'est pas l'os de l'homme qui grossit, c'est l'homme lui-même, en soi, en ce qu'il est, lui-même qui grossit. C'est-à-dire que l'homme, il change. C'est plus le même homme. Un homme qui a une bonne nouvelle, c'est un autre homme que celui qui était avant. La nouvelle, elle change, elle modifie l'homme. C'est plus le même homme. Donc, c'est pas quand on dit le etzem, c'est pas l'os qui est dans la chair, mais c'est le atzmo shel Adam, l'homme en lui-même qui change et qui engraisse. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui reçoit la shmoa, la bonne nouvelle, eh bien, ça fait que c'est un changement de signum. Il change il change de démarche. Il change de démarche. Dans la vie, les gens, ils ont une démarche. Moi, je suis qui je suis. Moi, j'ai une démarche dans la vie. J'ai une approche de la vie. C'est ça ma démarche. C'est ça que j'essaye d'être. Chaque homme, ou en tout cas chaque ben date, il a une démarche. Mais une bonne nouvelle qui n'est pas prévue, elle change ta démarche. Imaginons que quelqu'un, il est voué sa vie à vivre une vie très modeste et à se consacrer au limoud et à vivre de peu, etc. Et que du jour au lendemain, il hérite d'une fortune. Ça va être très dur de garder la même démarche. Parce que maintenant, avant, quand tu as le salaire d'un avraire en Eretz Israël, vivre simplement, c'est même pas facile. Il n'y a juste pas le choix. Mais vivre simplement quand on a des millions dans le compte en banque, là, c'est plus la même chose. Et donc, mais ça c'est parce que c'était imprévu. Quelqu'un qui l'avait vu venir, il a eu le temps de se préparer, de s'adapter. Donc, il sait, j'ai le temps de voir venir, je sais que d'ici quelques mois, j'aurai ceci et cela. Je peux me préparer mentalement pour pas tomber dans le n'importe quoi. Mais quelqu'un qui s'arrive soudainement, il perd son équilibre et sa démarche, elle change. Ouais. C'est pour ça que tous les gens, la majorité des gens qui ont gagné des gros lots à l'euro million, ils ont tous plus ou moins implosé en plein vol. Ou en tout cas, très souvent, ils ont implosé en plein vol parce que c'était des gens qui avaient une certaine stabilité. Et là, on a quelque chose qui vient complètement les déstabiliser. Donc, c'est ça l'idée qu'en fait, il a une chaussure. Il a reçu une bonne nouvelle et il sait plus comment on marche. Littéralement, il sait plus comment on marche. Ça veut dire que quelque part, ce qu'il avait déjà, le pied qu'il a déjà mis, ok. Mais le deuxième pied, pour équilibrer sa démarche, là, il arrive plus. Ouais, il arrive plus. Il arrive plus à équilibrer sa démarche. Il a avancé, il a mis une chaussure, mais il n'arrive pas à mettre la deuxième. Donc, il a un pas qui est inégal. Et en même temps, alors qu'est-ce que je fais? Peut-être que j'enlève la chaussure, j'essaye de remettre les deux pieds par terre. J'essaye de garder les pieds au sol. Il n'arrivait pas non plus. Quand on dit qu'il n'arrivait pas à enlever la chaussure, c'est qu'il n'arrivait pas à enlever ce déséquilibre qui avait été provoqué par la bonne nouvelle. C'est ça qu'on dit. Donc en fait, il était déstabilisé. Le Maharal ici, il fait quelque chose qu'on retrouve chez le Rambam. C'est qu'en fait, il va prendre une expression qui a l'air une expression physique, et il va en faire quelque chose de symbolique. C'est quoi? C'est que quelqu'un qui a une seule chaussure, il est déséquilibré. D'un côté, il a la semelle, donc il est surélevé. L'autre côté, il est bas, il est déséquilibré. Et c'est ça l'idée. Il était déséquilibré, il n'arrivait pas ni à s'élever, ni à mettre ses deux chaussures, ni à remettre les pieds sur le sol. Et donc, c'est de ça qu'on parle ici. Quoi? Oui, mais c'était pas prévu. C'était pas prévu. C'était soudain. Et donc, il a perdu son équilibre. Il a perdu même son équilibre, sa stabilité. Sa stabilité. Ça veut dire que quelque part, c'est intéressant que Shmua Tova Tedashen Etzem, c'est pas forcément une bonne chose. C'est un fait. C'est-à-dire que ça te fait grossir. Ça change qui tu es. T'es plus le même. Il faut faire très attention. En fait, l'idéal est comme ça. Si tu es stable au moment où tu reçois la nouvelle, si tu as les deux pieds au sol ou tu as des chaussures, alors tu as l'équilibre nécessaire pour absorber ça. Et même ça va changer ta démarche, mais tu es équilibré, tu as les deux pieds au sol. Mais si au moment la bonne nouvelle, elle arrive, tu n'as pas d'équilibre, ben tu réussiras, ça va complètement te déséquilibrer. Quelqu'un qui a les deux chaussures, ok, son pas, il va changer un petit peu, il sera plus lourd. T'es de la chaîne Etsem, son pas, il sera plus lourd, mais il a un équilibre. Donc, il saura un peu retrouver son chemin. Mais quelqu'un qu'au moment où il reçoit cette nouvelle, il est pas équilibré, eh bien, il s'en sortira pas. Il s'en sortira pas. Il s'en sortira pas. Ça veut dire que on parle pas ici de physiologie, on parle de compréhension intime de l'homme. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on a un problème. On a quelqu'un qui est destiné à devenir le roi du monde, l'empereur de Rome. Et il est dans un état d'instabilité. Donc en fait, il y a quelque chose de très frappant, c'est qu'en fait, Rabbi Yochanan, il est là pour s'assurer que l'empereur, le Caesar, le César, il soit pas un fou, il soit pas un homme déséquilibré, il soit pas un espèce de Donald Trump. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, on aurait pu penser que Rabbi Yochanan Ben Zakkai, il arrive, il voit que l'empereur, le futur empereur, est en train de perdre ses moyens, il dit, bah, c'est pas mon problème. Non, non. Ce qu'il va faire ici, c'est qu'il va stabiliser l'empereur et ce faisant, il va stabiliser tout l'Empire romain. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce qu'à partir du moment où la stabilité de l'Empire romain, elle dépend de la chorma des Juifs, alors il est en mesure de demander Tenli Yavne Vechachamea. Il a le droit de demander ça. Parce que, justement, Aspasianus, il se rend compte qu'on est passé à ça d'un désastre. On est passé à ça d'une instabilité au cœur même de l'Empire. Donc, en fait, la stabilité de l'Empire, elle dépend de quoi? De la chorma du Juif. Ah, alors là, Rabbi Yochanan Ben Zakkai, il peut demander Tenli Yavne Vechachamea. Comme ça, moi, je propose. Pour expliquer la démarche de Rabbi Yochanan.
Juste pour comprendre, du coup, enfin, par rapport à l'explication du maral, quand Rabbi Yochanan il lui dit, bah, amène un homme que t'aimes pas et ça va calmer, enfin, ça va calmer un peu le phénomène. Ça veut dire quoi? Que ça l'a fait tomber dans un statut d'homme simple finalement. Ça lui a fait, il avait perdu les pédales par le fait d'être nommé roi et d'un seul coup, ça l'a ramené un peu sur terre.
Voilà, il avait perdu le. Parce qu'en fait, quand on est dans un état d'extase, on pense que tout est possible. On pense que tout est possible. On a une phase extatique comme ça de manie, en fait. Une manie. Et on pense que tout est possible. Et donc, on peut tout se permettre. Et puis là, il y a quelqu'un qu'on ne supporte pas et on se rappelle qu'on ne peut pas le tuer juste parce que sa tête, elle ne nous revient pas. Et du coup, ça nous ramène sur Terre.
Bon, ce qui est, enfin, dans le cas de l'Empire, enfin l'Empire romain, enfin un empereur pouvait faire ça, je pense, mais.
Non, parce qu'il y avait le Sénat quand même, il y avait des lois. C'est-à-dire, on voit que c'est le Sénat qui l'a nommé, on ne parle pas, il y a eu des époques. Il y a eu des époques où c'était plus. Il y avait moins de
Ah oui,
droits.
c'est vrai,
Mais
le haut empire, le bas empire, je crois.
Voilà. Mais c'est-à-dire que c'est les Romains, les us et les coutumes, ils étaient très importants. Donc, on pouvait pas. Il fallait respecter les règles. C'était absolument crucial. D'ailleurs, c'est pour ça que l'Empire romain, il a gardé des souvenirs très, très précis justement des gens qui ont pas, qui des empereurs ou des dirigeants qui ont débordé de ces règles-là. D'accord. Alors, du coup, Rabbi Yochanan, il a demandé
J'ai pas ce
trois
point.
choses. Oui? D'accord. Alors, Rabbi Yochanan, il a demandé. Une seconde. Rabbi Yochanan, il a demandé trois choses. Il a demandé Yavne, Rabban Gamliel et Rabbi Tzadok qu'on guérisse Rabbi Tzadok. Pourquoi? Pourquoi ces trois choses-là plus que d'autres? Alors il dit comme ça le Maharal. Sache que l'intention de Rabbi Yochanan, c'est que grâce à ces trois choses, il serait, écoutez bien, Bnei Chorin. Par ces trois choses, on a tout perdu. Le Beth Amikdash, il est rasé. L'Empire romain, il a exilé les Juifs. Mais les Juifs, ils sont Bnei Chorin. Voilà. Tu voulais quelque chose qui a à voir avec Pessah? Ben voilà. Et
Voilà,
donc,
bon.
Baruch HaShem. que grâce à ces trois choses-là, malgré la défaite, malgré la galoute, eh ben, on serait quand même Bnei Chorin. Et que les Romains, ils puissent pas anéantir le peuple juif. Parce qu'avec leur zechout de ces trois choses, on serait sauvé de toute chose. Parce que Yavne les Chachamim, grâce à eux, il y a la Torah. Yavne les Chachamim, c'était le Sanhédrin. C'est le centre névralgique de l'étude de la Torah. Rabbi Tzadok, c'était celui qui avait la force de la prière, celui qui a prié pendant des dizaines d'années. Donc, c'est le pan de la Avoda. Et la lignée de Rabban Gamliel, c'est des gens qui vivent par eux-mêmes. Mais tu voulais poser une question? D'accord. Et la lignée de Rabban Gamliel, c'est ils ont une vie par eux-mêmes. Ils se tiennent par eux-mêmes puisque c'est des gens importants. Qu'ils étaient des Nessim. Nessim, c'est quelque chose qui est nocé, qui porte, mais qui n'est pas porté. C'est des gens qui se tiennent droit. Les Nessim, c'est des gens qui existent par eux-mêmes. C'est des gens qui ont une vie propre. Et grâce à ces trois choses, alors le peuple juif, il est invincible. Parce qu'on a la Torah, on a la Tfila, et on a... Maintenant, la Torah et la Tfila, c'est des choses qui sont extérieures. Un homme, il étudie la Torah. Un homme, il fait la Tfila. Mais cet homme-là, est-ce que lui-même, il tient debout ou pas? Parce qu'on pourrait imaginer quelqu'un qui étudie, quelqu'un qui fait la tefila, mais que lui-même, en fait, il est faible, lui-même, il est instable, et ça ne tient pas. Un homme qui ne sait pas travailler, qui a pas perfectionné ses midot, mais qui va à fond dans le limoud et qui va à fond dans la tefila, il n'ira pas très loin parce que le matin, qu'est-ce qu'on dit? On dit modé ani lefanecha. Toute la avodat Hashem, elle a besoin d'un moi. La avodat Hashem, elle passe par un moi. Il y a un moi qui suit Oved Hashem. Et si ce moi-là, il n'existe pas, que ma conscience de moi-même, que mon ego n'est pas stable, alors cette personne, alors c'est qui prie? C'est moi, mais moi je n'existe pas, moi je ne suis rien, je ne sais pas vraiment qui je suis. Alors c'est qui prie? C'est qui étudie? Donc pour pouvoir étudier, pour pouvoir prier comme il faut qu'il y ait un moi. Ça, c'est un grand problème que les gens, ils ont, surtout à notre époque, qu'ils se précipitent, ils vont dans toutes les directions. Toutes les idées qu'ils vont trouver dans tous les livres, ils vont essayer de les mettre en application, même que ces idées, elles ne sont pas toujours compatibles et même elles sont pas compatibles avec la personne qui les fait. Les gens, ils ont des caractères différents. Ils sont différents. Il y a des gens, ils ont besoin de dormir un certain nombre d'heures. Il y a des gens, ils ont besoin de manger. Certaines quantités de nourriture, il y a des gens, ils sont incapables de se concentrer 15 heures d'affilée, ou même 12 heures d'affilée, ou même 10 heures. Donc, si je ne respecte pas mon ego, mon moi-même, alors il n'y a pas de tfila, il n'y a pas d'avoda qui est possible. Donc, il y a moi, et moi j'étudie, moi je prie. Mais donc, il y a besoin de ces trois aspects-là. Le peuple juif, il existe grâce au nasi. Le nasi, c'est comme le roi. Il donne l'identité au peuple. Il donne l'identité. Une fois qu'on a une identité, alors on peut s'appliquer dans deux directions. Dans la direction du limoud et dans la direction de la tfila.
Voilà, parce que enfin, je me permets d'interrompre, mais les collélimes aujourd'hui sont très formatés. Ça veut dire qu'il y a cette liberté un peu de l'individu, elle n'est pas très présente. S'adapter à l'individu, c'est pas quelque chose de courant. On peut,
Alors, je vais
dans
dire.
la vote en général, on peut le faire, mais...
Alors, je vais dire ça comme ça, c'est-à-dire que je parle de manière générale, chacun le prend comme il le prend. Il y a en homme, ici on a parlé de Gdoula et de Chachivout. Il y a dans l'homme, on est quelque part tous génériques. D'un certain côté, il y a des choses chez moi qu'on retrouvera chez beaucoup d'autres personnes. D'un autre côté, chez moi, il y a quelque chose qui est particulier. Et la question, la différence entre un gadol et un homme moyen, hein, c'est surtout le pourcentage de gadlout qu'il y a chez les gens. Et souvent, on n'est pas tous nés. Certaines personnes, ils sont nés avec quelque chose d'absolument particulier et qui est très dominant chez eux. Il y en a chez qui c'est beaucoup plus timoré, c'est beaucoup plus limité. Et donc, chacun, il doit trouver ce côté de gadlout. Une seconde, parce que la connexion, elle retrouve son. Voilà, chacun, il doit trouver cet aspect de Gadlout et le faire grandir en dehors de tout. Donc tu dis, par exemple, les Kollelim, ils sont formatés, mais alors en dehors du Kollel, il faut que je trouve un moyen d'expression. Mais ça, c'est vrai quand ma Gadlout, c'est un projet que je peux développer entre midi et deux. Mais si quelqu'un, sa Gadlout, c'est quelque chose, il est plus gadol que les autres, il a plus de potentiel que les autres et ça prend une plus grande partie de sa vie, alors effectivement, un jour, il devra sortir des structures. Rav Kravitz m'a dit une fois que lui, il nous a témoigné que tous les gdolim qu'il a connus, c'est des gens qui sont sortis des structures à un moment ou à un autre. Ils ont commencé, ils ont fait la yeshiva, ils ont fait quelques années de kollel et un jour, ils sont sortis. Parce qu'effectivement, la gadlout, elle se développe individuellement. Maintenant, chez certains, la gadlout, leur gadlout, elle peut se développer entre midi et deux. Il y en a que non, ils ont besoin toute la journée pour ça. Et chacun, il doit savoir qui il est. Mais
Super,
ça, c'est
merci.
l'idée. Ça, c'est l'idée de la gadlout qui est nécessaire pour la Torah et la Avoda. Ça, c'est cette idée-là.
Parenthèse,
Voilà.
les trois Torah, Avoda et Gadlout 6, ça représente aussi Torah, Gimlout, Hassadim et Avoda, ce qu'on donne par Kavot.
C'est exactement ce qu'il va dire, mais en fait, là, je voyais que le kéta qui suit, il est un petit peu long. Donc, on n'aura pas le temps de l'entamer. On reprendra Bezrat Hashem après Pessah. Voilà, je voulais m'arrêter là-dessus. Comme ça, on arrête avec quelque chose d'un petit peu clair et qu'on reprendra la prochaine fois Bezrat Hashem. Voilà, donc Pessah Kesher Vesameach.
Et ça, Kachar Samir, merci beaucoup.
Voilà, donc Chol
Bon,
HaMoed.
mardi.
Pas la moitié de Mistama, il n'y aura pas Shiur, parce que c'est ma femme qui sait où je serai à ce moment-là. Je suis pas forcément Ben Rorin pendant Chol HaMoed. Et voilà, donc on reprendra après Pessah, vous rattachez. Pessah
Pas de
Kesher,
soucis.
Pessah Kesher et sa mère.
Et ça, Kachar Samir.
Alto.